Donc, Bézat Hachem, nous allons continuer notre développement concernant la différence entre le peuple d'Israël lorsqu'il se trouve sur sa terre et son état lorsqu'il est à l'extérieur de sa terre et quelles sont les conséquences au niveau de la réception de la valeur divine, c'est-à-dire de la prophétie, car toute la Torah est une grande prophétie et nous ne faisons rien dans le judaïsme qui ne soit en réalité relié à la parole Kakadosh Baruch Hu, c'est-à-dire de l'absolu béni soit-il. Aucune parole de la Torah n'est d'une invention humaine, aucune mitzvah de la Torah n'a été dite par un homme, de par sa pensée à lui, tout nous vient de l'infini. Et c'est pour cela que nous ne sommes pas une religion et que nous sommes en réalité une nation qui a été créée pour traduire les valeurs de l'infini dans ce monde. Cette mise en place est très importante pour bien comprendre quel est le rôle du peuple d'Israël parmi les nations. Et tant que ces valeurs divines ne se dévoilent pas dans notre réalité terrestre, eh bien le monde est en exil. Donc l'exil est en fait l'exil de l'infini par rapport à sa création, sa propre création. C'est comme si Dieu n'était pas là. Même s'il est là, mais il ne se dévoile pas, cela revient au même. Bien entendu qu'il fait vivre le tout, il est toujours là, l'infini est toujours présent, mais s'il ne se dévoile pas, c'est comme s'il n'était pas. Et donc, nous ne faisons pas attention seulement à ça, à son existence, certes son existence est très importante, mais plus encore au dévoilement de cette existence. Dans le terme de nos sages, lorsqu'on dit que Dieu descend sur terre, par exemple qu'il descend sur le mont Sinaï, il ne s'agit surtout pas d'un déplacement, mais il s'agit d'un dévoilement. Donc Vayered, Reid Galia. Donc à chaque fois qu'il y a la notion de descendre, les sages comprennent que c'est un dévoilement et non pas un déplacement géographique. Haut ne veut pas dire haut au niveau géographique, veut dire profond, veut dire intérieur, veut dire de l'ordre de l'âme. Et donc, puisque nous parlons un langage humain, on est obligé d'utiliser quelques mots. Mais quand tu entends quelque chose de haut dans la Torah, Kadosh Baruch Hu est haut, Elyon, c'est pas qu'il se trouve quelque part à quelques kilomètres au-dessus de ta tête. D'accord? C'est une notion qui veut dire aussi profondeur, qui veut dire âme de tout ce que tu vois dans ce monde. Source de vie. Et donc là, nous allons faire face à une réalité qui, dans nos générations, s'est développée plus que dans les autres générations, je veux dire, la force de la vision et de l'imagination, de l'ordre de l'image. Aujourd'hui, toute la technologie passe essentiellement par l'image. Beaucoup de choses passent par l'image. Les informations passent par image, non pas seulement par un son. Et donc, lorsque cette image nous arrive, nous faisons face à des données, peu importe dans quel domaine. Cette évolution de la technologie humaine aide à retrouver en fait notre état premier, naturel et sain. Car nous allons vers le retour de la prophétie dans le peuple d'Israël pour le monde entier. Cette prophétie a disparu depuis 2000 ans. Elle est en train de revenir au moment où le peuple d'Israël revient sur sa terre. Or, cette prophétie passe essentiellement par ce qu'on appelle le Koach HaMedameh, c'est-à-dire la force d'imagination. Donc, le prophète, il est dit sur les prophètes, ou Bekoach HaNevi'im Adameh, c'est-à-dire, comment est-ce que je me dévoile chez les prophètes? Par l'imagination. Donc le côté image apparaît comme un film avec une donnée, avec un secret qu'il faut décoder. Donc chaque prophète reçoit une image et il doit décoder cette image. Il est censé recevoir le décodage en même temps que l'image. C'est comme s'il s'agissait d'une devinette. Sauf Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ne reçoit pas le message prophétique par des devinettes. Chez lui, le message est clair. Il n'a pas besoin de s'évanouir ni de rentrer en état de transe pour recevoir sa prophétie. Tous les prophètes dorment, rêvent ou sont dans un état qui n'est pas un état naturel au moment de la prophétie. Mon cher Rabbeinu, ce n'est pas le même degré. Lorsqu'on ne comprend pas cette prophétie de mon cher Rabbeinu, on peut se permettre de parler de mon cher Rabbeinu comme si on parlait d'un autre prophète. Et ceci est un petit peu la faute de Aaron et de Myriam, son frère et sa sœur, qui ont pensé que leur prophétie était à l'égal de la prophétie de Moshe Rabbeinu. Et Kadosh Baruch Hu leur dit, faites attention, vous n'êtes pas du même niveau. Et donc, ne parlez pas de votre frère Moshe. De kol beiti ne'emanu, chez moi, Moshe Rabbeinu est fidèle à tous les degrés, en fait, de ma structure divine infinie. Alors que vous, vous êtes limité à autre chose. Vous ne pouvez pas rentrer quand il vous plaît. Mon chef peut rentrer et converser avec moi, lui-même, lorsqu'il le demande lui. Ça veut dire, mon chef peut poser une question et avoir une réponse. Ce n'est pas pareil qu'un prophète normal que Dieu prophétise. C'est Dieu qui vient vers le prophète. Mon cher Rabbeinu a une qualité supérieure aux autres, et qu'il peut aller poser une question à Dieu. Attendez ici, je vais voir ce que Dieu dit à tel et tel sujet. Donc il y a ici quelque chose de précis. Et c'est pour ça que c'est Moshe Rabbeinu seul qui peut nous transmettre la Torah de l'infini. Donc la Torah qui est descendue du ciel, entre guillemets, donc qui s'est dévoilée, passe obligatoirement par un prophète de ce niveau-là et par personne d'autre. Donc il n'y a aucun souci de transformation. Il n'y a aucun souci de déviation de la source prophétique par rapport à ce que nous recevons ici. Et donc la Torah de Moshe est une Torah de l'absolu, béni soit-il. Ok.
Toutes les personnes qui sont en train dans la salle, etc., qui sont des prophètes ?
Non. Non.
C'est quoi,
non. Un prophète, ça a des... Il y a des conditions pour devenir prophète, mais c'est un cours à part entière. On ne devient pas prophète comme cela. On est doté d'une force prophétique à l'intérieur de nous, mais il faut la développer, il faut la retrouver. Mais tu es prophète dans ton essence, parce que tu as été créé avec l'âme qui fait partie du peuple d'Israël, donc qui est censé recevoir ce message divin, mais il reste à le développer durant toute ta vie. Et même lorsque tu l'as développé, c'est seulement l'Éternel qui décide s'il fait passer par toi la prophétie ou non. C'est-à-dire qu'il y a des prophètes qui sont arrivés à leur prophétie sans jamais prophétiser. Il peut être prophète en dehors des nations d'Israël, mais encore une fois, c'est une prophétie d'un autre ordre, d'un autre niveau. D'accord ? D'ailleurs, même dans le sein, au sein du peuple d'Israël, aucun prophète ne prophétise du même niveau. C'est-à-dire, autant de prophètes, autant de formes de prophétie. En shnei nevi'im mitnab'im ken be signon echad. Jamais deux prophètes, même au sein du peuple d'Israël, ne reçoivent la même chose, car la prophétie passe, après tout, par le prisme de la personne en question. Donc si le prisme de la personne en question est vert, on va dire que la prophétie aura la couleur vert. D'accord ?
Okay. Est-ce que quelqu'un peut émettre une prophétie sans avoir conscience de cette prophétie ?
Ça n'existe pas. Un prophète est conscient de sa prophétie, ça devient une évidence pour lui. Ce n'est pas une invention de « j'ai reçu un message » ou « je crois qu'on m'a parlé, j'ai vu quelque chose ». C'est pas de cet ordre-là. C'est-à-dire, pour devenir un vrai prophète, et c'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans tout le sujet maintenant, c'est un sujet à part entière qu'il faut développer, que j'ai développé, Baruch HaShem, cette année, pendant la fête de Shavuot, car tout le don de la Torah, en réalité, c'est un don prophétique. Donc, qui nous dit que ce n'est pas un mensonge? Qui nous dit que Moshe n'a pas eu une fabulation? Qui nous dit que Moshe n'a pas trahi le message divin? Ou qu'il est, Bichlal, un prophète? D'où est-ce que nous avons la preuve que cette Torah que nous vivons est une Torah qui vient du ciel? Est-ce que la Torah vient minashamayim? Et de quel ciel vient-elle? Il y a un ciel qui est immense, il y a un petit ciel. Il y a le ciel qui est au niveau de ta pensée humaine. C'est encore plus petit, plus limité. Donc, même quand tu dis la Torah vient du ciel, de quel ciel tu parles? Quel est le ciel duquel la Torah est arrivée? Et donc il faut bien comprendre que la Torah que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est une Torah de vérité absolue. Reste à le prouver, il faut le montrer. Ça, c'est un cours à part entière. Toujours est-il que là, je veux vous parler de cette prophétie spéciale et savoir comment cette forme qui passe par la vision humaine, par la force de l'imaginaire humain, quelle est sa valeur lorsque l'homme se trouve sur la terre d'Israël et lorsqu'il se trouve à l'extérieur de cette terre d'Israël. En d'autres termes, est-ce qu'on peut prophétiser en dehors de la terre d'Israël après que nous soyons rentrés sur la terre une fois, la première fois, après la sortie d'Égypte? Avant l'entrée en terre d'Israël la première fois, tout est différent. La première rentrée en Eretz Israël transforme tout, et à partir de ce moment-là, il y a une interdiction même d'apporter, par exemple, des sacrifices là où on veut. Il y a un lieu précis sur lequel on peut apporter des sacrifices. Regardez, les choses sont très graves, car les sacrifices sont remplacés aujourd'hui par la prière. Or, les sacrifices sont interdits en dehors du temple, donc en dehors de la terre d'Israël. Donc normalement, si Uneshalma Parim Satenu, si aujourd'hui nos paroles remplacent les korbanot, on n'aurait même pas le droit de prier en dehors des réfistrés, ou Bichlal, en dehors de Yerushalayim. Donc nous sommes obligés de prier en direction, en tout cas en direction mentale, à chaque fois que vous faites votre Amida, même si vous n'êtes pas à l'intérieur du Saint des Saints ou du Beth Amigdash, vous êtes obligé de focaliser votre prière vers cette direction. Comme il est dit, Vehitpalelu Elai Derech Artam. Ils devront prier vers moi, mais en se dirigeant vers la terre d'Israël seulement. Donc quelqu'un qui prierait maintenant à Paris, s'il n'a pas cette kavana de prier au Beth Amikdash en Eretz Israël, il y a un problème. D'accord? Et tout ceci pour vous dire qu'il y a quelque chose de très important au niveau du sens que je donne aux paroles que je dis. On appelle dans le langage hébraïque la kavana. Est-ce que tu as une kavana? Est-ce que tu as une kavana comme à l'armée? Tu as une cible? Est-ce le chakiboun? Est-ce que ta prière va quelque part, va vers quelque chose? Ou bien c'est juste une parole comme ça qui est dite? C'est-à-dire? Alors on va essayer de voir ça dans le texte. Le texte donc est tiré de Mei Marom du Rav Harlat Zatzal. Mayane à Yeshua, réclamé. Donc, Kouachamedame, la force donc imaginatrice ou de l'imagination, et encore une fois, pas dans le sens où vous le comprenez aujourd'hui, car aujourd'hui on peut dire j'imagine des choses. Vous êtes avec moi? Et pas j'imagine des choses. C'est que Dieu me fait passer un message par une image. C'est pas pareil. D'accord? Ça vient d'en haut, ça ne vient pas d'en bas. Si la Torah venait d'en bas, d'un homme, j'ai rien à faire moi dans le judaïsme. Je jette ma kippa et je fais plus rien. J'ai pas à aller vers ou à faire un travail qui a été donné par un homme. Un homme est limité, même s'il est un petit peu plus ou beaucoup plus fin que moi, c'est toujours un homme. Je ne peux pas, moi, vivre une Torah donnée par un homme. Si la Torah n'est pas donnée par l'absolu béni soit-il, je n'ai rien à faire dans la Torah. Donc je suis obligé à un moment donné de faire un tri, de savoir réellement si la Torah est réellement venue du ciel. Et donc, ce bérour-là, ce travail-là, pour le faire une fois dans sa vie. Donc le peuple d'Israël l'a fait au moment du don de la Torah, et là on va essayer de comprendre comment l'image que Dieu veut faire passer dans la prophétie passe lorsqu'on est en Eretz Israël ou bien en Chutz La'aretz. Alors regardez ce que dit le Rav. Koach HaMedame, donc cette force-là que Dieu a placée dans l'homme, qui fait partie des forces de son être, c'est-à-dire la force de voir les choses par une image. Quelque chose d'énorme. C'est la force qui unit, qui permet le trait d'union entre la neshama et le corps. Donc quelqu'un qui est doté d'une force imaginaire, développée, aura plus de liens entre sa neshama et son corps que quelqu'un qui, dont la force imaginaire, imaginatrice, n'est pas développé. Donc cette force est une force qu'il faut étudier. Quel est ce corps à mesdames? Quelles sont ses valeurs? Est-ce qu'on appelle ça corps à mesdames où je m'imagine des choses? Non. C'est quelque chose de beaucoup plus fort. Mais pour l'instant, nous avons une donnée que le Rav nous donne ici, c'est que c'est grâce à cette force-là que ton âme et ton corps peuvent être reliés. Vieshnam, Shne Minei Medame. Et voilà, le Rav est en train de rentrer un petit peu plus dans les détails. Il y a deux niveaux, deux sortes de Medame. Je préfère le laisser en hébreu, le mot Medame, plutôt que rentrer dans les traductions en français imagination, imaginaire. Il y a des choses qui peuvent, Chas v'Shalom, dévoyer le sens de ce que je veux dire. Donc on va le garder en hébreu. Il y a deux degrés de Medame. Ha'echad, dimion emet. Premier, sa source est une source de vérité. C'est-à-dire, il voit avec les yeux de son âme, pas les yeux de la chair, pas les yeux de l'extérieur, les yeux de dedans. Il voit des choses réelles. C'est-à-dire qu'on fait passer chez lui des messages réels qu'il est capable de voir. Comme, par exemple, dans un rêve. Même si tous les rêves ne sont pas une vérité absolue, je veux parler juste de la façon dont vous voyez pendant vos rêves. Quel est le membre utilisé pour que vous voyez dans vos rêves? Avec quoi vous voyez dans vos rêves? Avec autre chose que vos yeux en tout cas. Vous êtes d'accord? Donc il y a, vous comprenez bien, une autre force qui voit. Donc si vous croyez jusqu'à maintenant que vous voyez seulement par vos yeux, c'est une erreur. Ce que vos yeux vous permettent de voir n'est qu'une parcelle de la réalité. Vous pouvez fermer les yeux et continuer de voir autrement. C'est un autre niveau. D'ailleurs, lorsque je vous demande de vous concentrer, naturellement vous fermez les yeux. C'est bizarre. Comme si vous étiez en train de me dire: il faut que je ferme les yeux quand tu me demandes de me concentrer parce que je sais que les visions extérieures ne sont que superficielles et elles peuvent me gêner. Donc je vais fermer les yeux pour me concentrer sur autre chose. Tout à fait. Au niveau du Shema Israël, étant donné que nous parlons de quelque chose de tellement énorme, c'est-à-dire Hashem Echad, l'unicité de Dieu dans ce monde, quelque chose qui est difficile à entrevoir, à concevoir pour un homme, qui est dans un monde de pluralité, il n'arrive pas à comprendre l'unicité de Dieu, le Echad. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ferme les yeux. Pour se rapprocher, un tant soit peu, de cette notion d'unité. Il arrivera un jour où on approchera de plus en plus, mais jamais, jamais, au grand jamais, on sera lui. D'accord? C'est-à-dire, son absolu éternel, on ne pourra jamais l'atteindre. On sera toujours des créatures, des créations, alors que lui est le créateur, c'est autre chose. Alors au niveau psychologique, il y a une certaine jalousie. L'homme est jaloux de Dieu. Il veut un petit peu faire comme lui, avec ses forces à lui. Par exemple, Dieu crée une montagne. Alors on peut monter sur la montagne pour voir de très haut. Alors l'homme qui se dit, ça, la montagne est une création divine, moi je vais créer une montagne à ma façon à moi, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des pierres, qui sont elles aussi naturelles, il les transforme en briques. Ça c'est déjà humain. Et il construit un immeuble, il construit un building. Et donc ce building c'est quoi? C'est une imitation de la montagne. À la différence près, c'est que la montagne est une création divine et que l'immeuble est une création humaine, entre guillemets. Donc c'est comme si l'homme était un petit peu jaloux de ce que Dieu a fait. Et c'est comme ça que certains de nos sages comprennent la faute de la tour de Babel. Quelle était la faute de construire une tour? C'est tout simplement vouloir faire à la place de Dieu. Toi, tu es capable de faire une montagne, on va te montrer que nous-mêmes, nous sommes capables de faire un édifice de nos propres mains. Et donc, à l'intérieur de chacun de nous, il y a cette certaine jalousie. Tu as envie d'être ici et en même temps ailleurs. Mais tu ne le peux pas. Alors que Dieu, lui, est omniprésent, omnipotent. Donc tu jalouses un petit peu ce degré. Maintenant, lorsqu'Akadosh Baruch Hu te fait passer par ton prisme humain ces valeurs de l'infini, bien entendu, il ne fait pas passer n'importe quoi. Quel est le sens de la prophétie? Seulement si elle sert à l'humanité, à faire avancer l'humanité. C'est pour ça que dans la Torah, il n'est pas mentionné tous les détails qui se sont passés. Vous comprenez bien que ce que la Torah nous raconte n'est rien par rapport à ce qui s'est passé réellement. Elle a choisi certains degrés pour nous enseigner quelque chose. L'exemple le plus simple, c'est que nous sommes dans le livre de Bamidbar. Or, la Torah ne raconte rien de ce qui s'est passé pendant le Midbar, pendant le désert. Rien du tout. On sait ce qui s'est passé à la première année, et on sait ce qui s'est passé à la 40e année. Pendant 38 ans, on ne sait même pas ce qui s'est passé. C'est marqué nulle part dans la Torah. Pourquoi la Torah ne nous raconte pas cela? Bien, parce que ça ne sert à rien, d'après elle. Et donc, ça ne sert à rien de nous donner un message qui ne servira à rien au niveau du développement de ce que nous devons atteindre dans ce monde. Tout ce que je viens de vous dire, ça se dit en hébreu. Nevoua, shehutzrecha ledorot, nirteva. Nevoua, shelohutzrecha ledorot, lo nirteva. Seulement une prophétie qui est, qu'on peut utiliser durant toutes les générations, cette prophétie a été écrite et retenue dans la Torah. Toutes les autres ne sont pas retenues parce qu'elles ne servent pas directement à l'évolution de l'être humain. Donc il faut faire très attention. Là, ce que vous avez dans la Torah, ce n'est pas une histoire. C'est l'histoire que vous racontez lorsque vous lisez le texte de la Torah n'est qu'un prétexte. C'est un texte qui est un prétexte pour faire passer un message beaucoup plus profond à travers l'histoire. Donc ne prenez pas seulement l'histoire en jetant le sujet profond, l'idée qui passe à travers cette histoire. Sinon, vous ne comprenez plus rien. Si vous ne prenez que le pshat de la Torah, le Harizal nous dit que c'est les lettres du qui pêche, de l'imbécile, qui ne comprend pas, il lit l'histoire, il a l'impression que Dieu il a voulu nous raconter des histoires. Alors certes, ça s'habille dans une histoire et cette histoire est précise. Et il ne faut pas sortir de ce pshat, mais il faut comprendre le message subliminal qui s'y cache. Vous êtes d'accord? On est d'accord? Ok. Oui.
Il y a des prophéties qui ne servent pas pour toutes les générations?
J'ai dit seulement une névoie qui sert à toutes les générations a été retenue.
Et par essence, c'est logique que ça sert à toutes les générations?
Ben justement, d'après ce texte de nos sages, non. Il peut y avoir une prophétie qui est momentanée, qui est juste pour ce qui va se passer maintenant, concernant le peuple d'Israël, mais pas pour toutes les générations.
Il peut y avoir une parole divine qui n'est pas éternelle. Hein.
C'est pas que ce n'est pas éternel. Elle est toujours éternelle. C'est une très bonne question que tu poses. Mais en fait, il faut qu'on sache en quoi elle va aider, ou peut-être qu'elle a été donnée sous une autre forme dans un autre processus. Donc on ne va pas tout retenir. Et ça, c'est l'histoire de la Torah. Donc toute l'histoire de la Torah, le pshat de la Torah, l'historique de la Torah, est une prophétie. Mais il faut que tu saches déceler, décoder. Si tu n'as pas le décodeur, tu vas rester dans l'histoire. C'est comme ton rêve. Quelqu'un qui a rêvé la nuit, je vous donne un exemple, je ne sais pas quoi, d'un bateau qui est sur l'eau, donc, et toi tu es sur le bateau, si tu racontes ton rêve à quelqu'un et que le type te dit, ben oui, tu es sur un bateau qui est sur l'eau, il te répète ton rêve, ça ne sert à rien. Vous comprenez que le bateau et l'eau sont des messages que celui qui doit interpréter le rêve doit comprendre. Et s'il ne comprend pas ce que veut dire bateau, ce que veut dire eau, eh bien il n'aura pas la solution au rêve. Donc il faut être quelqu'un de l'ordre de Yosef à Tzadik pour comprendre et traduire un rêve dans une réalité. Et il faut être Moshe Rabbeinu pour traduire le rêve de l'Éternel en Torah telle que nous la connaissons ici-bas. Donc Moshe est le seul transmetteur de la Torah. Si la Torah était passée par quelqu'un d'autre, elle aurait été fausse, dévoyée. On aurait eu des rajouts, chas v'shalom. Comme c'est le cas après le don de la Torah, où plusieurs religions ont inventé des choses de l'homme lui-même qui n'ont aucun rapport avec la valeur divine. Et donc nous ne pouvons pas, nous, accepter, cautionner ce genre de paroles. Alors me direz-vous, et toutes les paroles de nos sages dans la Gemara, dans la Mishnah et tout ça, eh bien c'est issu de cette Torah. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire une halakha si elle n'a pas une source dans ce texte de la Torah que tu dois décoder. D'accord ? Quel ? C'est ce que j'ai répondu avant que tu poses la question. Toi, tu as l'impression qu'elles ne sont pas dans la Torah. Mais en réalité, les sages sont allés chercher ce qu'on appelle ou un kalvachomer ou une xerashava pour comprendre qu'en réalité, c'est ce que Dieu veut. Et donc, quand tu vas faire cette petite mitzvah, eh bien, tu es en train de faire la volonté, le ratson d'Akadosh Baruch Hu, sans t'avoir dévoyé. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le Shulchan Aruch, finalement, c'est la plus grande des prophéties dans une résolution d'une petite action humaine. Comment lasser mes lacets? Comment attacher mes chaussures? Jusqu'à ce degré-là, l'infini béni soit-il, s'est occupé de nous. Ok.
Oui, c'est la prochaine, mais maintenant, pour Hanukkah,
qui
n'est pas du tout dans la Torah, c'est ça qui est perdu,
c'était les bougies de Hanukkah. Alors pourquoi tu dis Asher Kideshanu ben mitzvotav, Retsivan ou Lehadlik? Traduit en français, Mère béni sois-tu l'Éternel, qui nous a sanctifiés de ses mitzvot et que lui, il nous a ordonné d'allumer la menorah. Ah, c'est pas possible. C'est-à-dire, si les sages, il y a fait. Donc, si les sages te disent que c'est lui qui nous a ordonné d'allumer, toi, il te manque maintenant d'où les sages ont allé chercher ce degré. Et si tu ne sais pas, tu vas te dire, ben, ils ont inventé une mitzvah, ils ont dit comme si c'était Dieu qui l'avait dit. Mais c'est faux. En cherchant bien, tu vas comprendre pourquoi. Par exemple, l'otasur mi asher yomru lach yamin usmol. Ne bouge pas, c'est écrit dans la Torah de ce que tes sages, tes maîtres vont te dire, ni à droite ni à gauche. Shma beni musar avicha, la Torah de tes pères, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui nous permettent, qui permettent aux sages de sortir cette halakha, comme tu viens de le citer, de Hanouka, qui apparemment ne fait pas partie de la Torah écrite à proprement dit. Bien, je vais te donner un autre exemple, les tzitzit. Les tzitzit, il y a marqué nulle part dans la Torah que tu dois mettre des tzitzit. Si ce n'est que... Non. Si tu as un vêtement à quatre coins. Alors tu peux trouver une combine de mettre des t-shirts toute ta vie pour ne jamais mettre les tzitzit. Et apparemment, tu feras aucune faute. C'est là. Mais c'est encore plus compliqué que cela. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, parce qu'en réalité, c'est une faute de ne pas comprendre que certaines mitzvot de la Torah donnent à l'homme la place du vouloir et de la décision sans le forcer. C'est-à-dire que tu devrais faire en sorte, tellement tu aimes l'Éternel et le lien avec lui, de chercher à mettre des vêtements à quatre coins pour mettre des titiots. C'est la même chose pour la mezouza. Si tu évites d'avoir des portes dans ta maison, tu n'as pas besoin de mettre des mezouzos. Donc tu peux tout simplement passer à côté de la halakha sans réellement endommager quoi que ce soit. Tu peux passer entre les gouttes et tu diras, moi, j'ai rien fait de mal. Et je peux vous donner d'autres mitzvot de cette manière-là. Par exemple, par exemple, ou de ne pas te rassasier, c'est pas seulement le pain qui fait des quatre Amazon. D'accord? C'est Achalta Vesavata ou Berarta, Vesavat. La mitzvah d'Eret Israël, il y a plein de gens qui vous diront où c'est marqué clairement dans la Torah. Alors, si j'ai besoin de te prouver un texte de la Torah, si tu cherches en réalité des combines pour éviter la mitzvah, bien tu ne viendras jamais en Eret Israël et tu pourras toujours trouver que c'est pas marqué ou que c'est pas notre génération, que ça a été dit à d'autres générations, mais pas la nôtre. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a des mitzvot qui sont beratson, comme par exemple proclamer Dieu roi ou malchuto beratson kiblo alem. Si tu n'as pas ce ratson, eh bien tu ne le proclames pas roi. Mais sache que si tu ne le proclames pas roi, tu n'as aussi aucune mitzvah à accomplir, car tu accomplis les mitzvot du roi. Donc la proclamation du roi passe avant les mitzvot du roi. Donc encore une fois, tu es en dehors du système. Et tout ceci est extrêmement clair dans la Torah. Et tu peux être un avocat au sein de la Torah, très intelligent, qui passe entre les gouttes et qui ne fait jamais rien. Je mange un petit peu moins que ça, je vole un tout petit peu moins qu'une olive, donc je vais dans le marché et je mange à midi, tranquillement, sans rien acheter. Chez ici, chez celui-là, je tape une olive, chez l'autre, je tape un petit machin, chez l'autre, je suis moins que la valeur du gazelle, mais je suis à la fin de la journée rassasié d'avoir volé à chacun quelque chose. Alors imaginez-vous 20 000 qui font la même chose, tous les marchands du souk ferment. Et c'est la même chose dans plein de domaines dans la vie. Il faut faire très attention. Il y a des mitzvot qui sont réchoutes, ça ne veut pas dire qu'elles sont à annuler. Alors, il y a donc deux formes de dinyon. Le dinyon emet. Qu'est-ce que c'est que le dinyon emet? Deuxième ligne, à la fin, vehu ma sheba min ha neshama el aguf. Sache que le dinyon emet, c'est ce que la neshama transmet au corps. En élargissant le sujet, c'est ce que Dieu donne au monde. Car la neshama dans le corps, c'est Dieu dans le monde. C'est la même chose, vous comprenez? Où se trouve Dieu chez vous? C'est la neshama que vous avez à l'intérieur. Donc, moi je marche avec Dieu en moi. C'est ma neshama qui me fait vivre. Si cette neshama me donne des messages, et que je suis capable de les entendre parce que le lien entre la neshama et le corps est propre, le canal par lequel les messages passent est propre, eh bien je peux entendre les messages. Alors je vous pose une question simple qui est un petit peu embêtante. Est-ce que vous entendez ce que la neshama vous dit? Il n'y a plus personne qui lève le doigt? Ça veut dire quoi? Que les canaux sont sales? On devrait, normalement, si on était simple, être à l'écoute permanente de ce que la Neshama émet au corps. La Neshama, sans arrêt, elle est dans une émission totale, elle n'arrête pas de parler. Comme Dieu n'arrête pas de parler au monde. L'Erolam Adonai Devarcha Mitzvah Vashamayim. Pourquoi on ne l'entend pas? Donc pose-toi des questions. Il y a un problème. Il faut que tu invites un plombier pour décrasser ses canaux. Il y a un problème. On est malade. On est donc malade. Et donc notre mal à dit nous empêche d'entendre les dits. On a du mal à dit. On a du mal à entendre la diction de Dieu. Et donc c'est une malédiction. Ce sont les mêmes lettres. C'est vrai. Tu devrais être prophète, tu devrais être comme Moshe Rabbeinu, te marcher complètement, naturellement, avec les vraies valeurs de Dieu à chaque instant. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de rentrer dans un restaurant, voir une théouda kashrout, Je rentre dans le restaurant et je sens et je me dis, c'est cachère. Naturellement. Tu n'as pas besoin d'un calendrier ou d'une montre pour savoir à quelle heure entre Shabbat. C'est dans l'air. Tu devrais dire, maintenant. C'est maintenant que Shabbat est rentré. Maintenant Shabbat vient de sortir. Ben Vadaï, ça a été comme ça. Abraham, Yitzhak et Yaakov vivaient comme ça. Ça, si certaines personnes, et notamment les sources de ce que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire tes pères étaient comme ça, c'est que tu as ça dans tes gènes, mais tu ne l'as jamais développé. Ou pas encore. Ou pas assez. Tu comprends? C'est fait, Baruch HaShem. C'est là. Alors, pour l'instant, tu commences à ressentir, c'est ce que j'ai dit au début de mes propos, c'est-à-dire qu'on est en train de revenir à notre force naturelle de prophétie, telle que nous l'avions au départ. Donc on devient saint. On a toujours eu ça, mais c'était endormi.
Quelqu'un qui sait, moi, je suis
quelqu'un
de pas bien, alors parfois, je
ressens que mais ça, c'est au niveau individuel. Mais moi, je parle au niveau du collectif. D'où est-ce qu'on sait que le collectif d'Israël doit maintenant fonder l'État d'Israël? Ah, ça, c'est autre chose. Soit tu parles au niveau religieux individuel. C'est pas suffisant, ça. Le peuple d'Israël, c'est pas un ensemble de petits bonhommes religieux. À Kadosh Baruch Hu n'a pas créé des petits bonhommes religieux. Il a créé un peuple. Tant que tu ne vis pas au degré de ton peuple et que tu ne vis au niveau de ta petite personne à toi, c'est pas encore le judaïsme. Et combien d'entre nous vivent leur judaïsme au niveau individuel seulement et n'ont pas de conscience de ce que représente la Torah de la nation? Et ça, c'est la plus grande maladie. Chas v'shalom, en exagérant, c'est ce que les sages nous appellent Chayav Karet. Tu es retranché de ton peuple, tu vis seul. Donc tu peux être religieux, absolument religieux aux yeux des gens, mais être en dehors du système d'Akadosh Baruch Hu, de sa volonté. Individuellement parlant, c'est pas encore ce que la Torah demande. Abraham, il était à ce niveau-là. Pourquoi Akadosh Baruch Hu lui a dit de quitter cet endroit et d'aller en Eretz Israël? Si c'est ce qu'il voulait à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il aurait dû être écrit dans le texte? Rayom Erachem El Abraham, Chazak U Baruch, Atadati Gadol, Ani Ge'e Becha, Ken Irbu Kmotra Be Israël, Tishaer Bamakom Shatan Im Sabo Be'u Kazdim. C'est pas ce qui est écrit. C'est arrivé à un très haut niveau, mais c'est pas ce que je t'ai demandé, moi. Ani Rote La'asot Mimcha Goy Gadol, je veux faire de toi une nation. Alors ça doit être ce que tu veux en dehors. C'est pas ce que moi je t'ai demandé. Alors il ne faut pas mentir par rapport à la Torah. Il faut voir ce que la Torah nous demande et pas ce que toi ça t'arrange. Ken?
En fait, on dit que quand on parle des nazirs.
Où tu as vu qu'il a encouragé? De qui tu parles? De Shimshon? Shimshon, c'est pas pareil. Shimshon, c'était un nazir mi-beten. C'est-à-dire qu'il était nazir avant de naître. Alors qu'un nazir qui choisit d'être nazir doit apporter un korban à la fin de son nazira pour justement se faire pardonner d'avoir quitté l'humanité à un moment donné.
Jamais Dieu, il encourage
quelqu'un. C'est pas naturel. Dieu ne veut pas que tu fasses une Torah qui n'est pas naturelle selon la vraie nature que tu as. Donc un judaïsme en dehors de ton peuple, c'est un judaïsme qui est malade, qui n'est pas naturel. Donc tu peux le développer. Mais ça ressemble à quoi? À un bonhomme qui est sous l'eau avec des bouteilles d'oxygène et des palmes. Mais c'est pas ce que Dieu t'a demandé, d'être un homme grenouille. Donc, de descendre à New York et trouver un magasin cachère en bas de la maison et une synagogue à 3 mètres et un rave à 4 mètres à côté et ses enfants dans une école juive à 10 mètres, c'est pas l'idéal. Ça, c'est des hommes grenouilles. Imagine-les tous avec des palmes et des tenues noires avec des masques et des tubas ou des bouteilles d'oxygène. Et tu les vois tous marcher comme ça dans la rue. Alors ça te fait rire, mais en réalité c'est exactement, c'est pas ce que Dieu veut. Alors tu me dis, oui, mais je peux vivre comme ça, d'accord? Mais ça s'appelle pas une vie. Donc, chez Al-Yedei Dimyonze, Ma'avira Haneshama et la Gouf et Imka Sechel. Si vous voulez éteindre le mazgan, je vous êtes tous en état de congélation. Je sais que vous voulez vivre longtemps, mais on peut trouver une autre solution. C'est-à-dire que le mazgan, on peut le mettre aussi à 25, hein, mais c'est pas ou 17 ou 40. C'est ça le problème. Bientôt. Chez Aliédé Bignonze, et donc grâce à cette force-là de l'image, Ma'avira, Neshama et la gouffe et Kimka Sechel. Qu'est-ce qu'elle fait passer la Neshama au corps? Les profondeurs du Sechel, de l'intelligence. C'est-à-dire que la Neshama, elle veut qu'il y ait un lien entre les valeurs de l'intellect et les valeurs de la vie, de la chair, du corps. Pas que tu sois un sage au niveau de tes pensées, mais que tu sois un sage au niveau de tes actes, de ton vécu. Il y a plein de gens qui sont sages au niveau de leurs pensées. Ils peuvent regarder Dieu toute la journée, mais ils se cognent contre des femmes enceintes, ils poussent des gens dans les supermarchés, parce qu'ils sont en retard aux cours. Ça, c'est pas de la Torah, Rabotai. Si tu as perdu ton côté humain et que tu ne sais pas gérer ton corps, selon les valeurs de la Torah, selon les critères de la Torah, c'est que il y a un problème moteur. C'est que ta neshama n'arrive pas à faire passer à ton corps les valeurs, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc nous avons, chas v'shalom, des problèmes moteurs d'application des valeurs de la neshama, qui émet toute la journée des émissions. Et je ne sais pour quelle raison on ne l'entend pas, ou très peu. Quelle? Alors il faut savoir ce que ça veut dire. Moi je ne suis pas de ceux qui vont t'interdire de faire ça. Je suis plutôt de ceux qui vont te dire de le faire intelligemment, parce que si on t'interdit ici, tu vas trouver ailleurs. Et tu vas chercher ailleurs. Et tu vas développer en toi des angoisses et des perversions encore plus cachées, encore plus dangereuses. Donc c'est pas une chita pour moi. La véritable chita, c'est de t'apprendre à contrôler et à avancer avec ton monde. Grâce à ces téléphones, tu peux aussi faire passer des cours à des milliers de personnes qui n'arriveront jamais à un cours. Donc si j'annule tout ce qui est progrès, alors on reste comme les Amish au fin fond là-bas de l'Amérique. Et tu as l'impression qu'il y a mes Hacherim aussi, ils sont tous habillés en noir, ils sont pas l'armée. Pareil, hein. En Amérique. Ken, les Amish. Tu connais pas? C'est un genre de secte. Ken?
Ah, les Mormons.
Non? Les Amish, ils sont habillés en noir, avec des costards, des chapeaux, la même chose, ils sont en calèche, ils sont contre tout, ils ont des barbes. En calèche, oui. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien de tout ce qui est moderne. Il n'y a pas. Ils n'allument pas la lumière, ils ont que des choses. 1700. Il faut leur demander. C'est une secte. C'est Moshe Animshal, Mouvan Aliedei Hamashal. Et donc, ce qu'on est en train de donner maintenant, c'était un exemple. Et quel est, veut dire cet exemple? Quel a Sechel Mouvan Aliedei Hamedame? C'est-à-dire que, de la même manière que lorsque je te raconte une histoire, tu es censé comprendre, au-delà de cette histoire, le sens que je veux te faire passer. Quand vous racontez une histoire à un enfant avant de dormir, il comprend ce qui est au-delà. Il ne reste pas collé à l'histoire. Vous êtes d'accord avec moi? Ken? C'est la même chose pour nous. Si je vous raconte maintenant quelque chose, comprenez le message subliminal que j'essaye de faire passer à l'intérieur. Et donc, c'est de la même manière, la Neshama fait passer des images au corps, et le corps ne doit surtout pas tomber dans l'erreur de l'image, de rester coincé dans l'image. Ok? Parce que si tu restes coincé dans l'image, tu as oublié le sens profond que l'image devait te transmettre. Oulam, yesh koach medame shehu kullo shav vekafel. Par contre, en face de ce degré de la neshama qui fait passer au corps, il y a une autre forme de koach medame, de force de l'image, et qui est complètement vaine, qui est complètement vide. Et ça, c'est l'inverse. C'est une imagination qui vient de l'homme d'en bas, du corps lui-même, de ses pulsions. C'est ce qu'il a envie. Donc il ferme les yeux et il construit des montagnes. On ne parle pas de ça. Vous comprenez la différence? Je peux te dire maintenant de fermer les yeux et d'inventer une image, de te voir à tel et tel endroit, de t'imaginer sur une plage. Ça, c'est l'homme. Mais là, la vraie image, c'est celle qui vient de Dieu, que tu ne contrôles pas, elle passe par toi. Et elle te demande seulement de ne pas la gêner lorsqu'elle arrive. Donc n'oubliez pas, il y a deux formes d'image. Celle qui vient de l'infini, on a appelé ça l'âme, vers le corps. Ça, c'est la bonne image, ça, c'est la prophétie. Et il y a la fausse image qui vient de l'imagination humaine, qui veut aller vers la Neshama. Et ça, c'est déjà des inventions. Le type, il commence à se faire des images. Il voit quelque chose, et il commence à se faire des films. Il développe. Il développe, il gonfle. C'est un petit truc, il fait une montagne. On appelle ça en hébreu les har-her. C'est-à-dire, il fait des montagnes. Har, 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 har. Ou mes har-her. Il fabrique des montagnes par une petite image que tu lui as donnée. Et ça, je peux rentrer dans un dimion moudra. Je veux tous maintenant vous hypnotiser de cette manière-là. Je vous demande de fermer les yeux, de voir telle et telle image, et moi je vous guide dans l'image que je veux. C'est possible. Mais ça, c'est pas de la prophétie. La prophétie, ça vous vient de l'infini, tu ne contrôles rien, comme le rêve. C'est pas toi qui vas diriger. On vient te donner un message. Pas dans tous les rêves, dans certains rêves. C'est bien. Car le rêve est une fraction de la prophétie. 1/60. C'est beaucoup, mais c'est encore très peu par rapport à la prophétie. Alors imaginez-vous, des fois vous vous réveillez d'un rêve qui est très fort. Imaginez-vous ce que c'est qu'un prophète. C'est-à-dire le prophète est sûr de ce qu'il a vu, du message divin qui passe par lui, donc il ne peut pas mentir, à moins que ce soit un menteur, et qu'il invente des choses qu'il n'a pas vues. Et ça, ça se voit tout de suite, ça se sait tout de suite, ou très rapidement. Parce qu'il va dire des choses qui ne se passent pas. D'accord? Ok. VZAFD, regardez maintenant, ça devient grave. Tout ce qu'on vient de dire, c'est la différence elle-même chez Ben Eretz Israël et Khutzlaaretz. Entre la terre d'Israël et Khutzlaaretz. Bechinat Hamedame au niveau de l'imaginaire. Ça veut dire que tout ce que tu reçois au niveau de la Torah en dehors de la terre d'Israël, c'est comme la deuxième forme d'imagination qui n'a aucun rapport avec ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de dire. Terrible. Autrement dit, tu veux réellement recevoir et accéder et entendre et voir les paroles de l'Éternel qui passent par toi, par ta Neshama, pour arriver à ton corps, ce n'est que sur cette terre. Alors moi je me pose une question, comment est-ce qu'un lieu géographique a la capacité de changer ma réception? C'est ce que nous sommes en train de dire ici. À tel point qu'il n'y a pas de prophétie en dehors de la terre d'Israël, ça n'existe pas. Après être rentré sur la terre. Ou concernant la terre. C'est pas possible ailleurs, autrement. C'est pas possible qu'un prophète se lève, soi-disant un prophète, dans une communauté à Strasbourg, et qu'il dise à ses élèves, hein, à ses orateurs, j'ai rêvé que demain nous devons construire encore un mikvé, et 3 synagogues et encore une école juive. Ça ne dit que pas. Mais s'il se lève un jour et dit, j'ai rêvé, Akadosh Baruch Hu est venu en message, il m'a dit de prendre toute ta communauté et de te barrer en Israël. Ça, tu peux commencer à entendre. Ça, c'est une prophétie qui va dans le sens de ce que la Torah nous dit. Qu'est-ce qui aurait pu être possible? Au niveau de Eretz Israël, c'est tout. Non. Eh bien non. Eh bien non. Ce n'est pas. Même pas 400 ans, même pas 1000 ans. C'est une prophétie, non pas du tout. Mais en galoute, tu ne dois pas continuer de développer ta galoute. Tu dois tout faire en sorte pour la quitter le plus vite possible. Encore une fois, ça c'est une invention. C'est une invention, c'est pas ce qui est dit dans la Torah. Ça c'est encore une fois une invention de ce que tu as entendu. C'est pas ce que Dieu te dit. C'est ta logique humaine, c'est pas la logique divine. T'es pas obligé. Ça, dès que tu as la possibilité de faire une malchoute, tu dois le faire. C'est pas possible de continuer à développer. Il n'y a pas d'un attendant. Tu dois tout le temps focaliser sur un seul sujet. Et d'ailleurs, tu le dis dans tous tes birkot Amazon, même il y a 400 ans. Baruch Ata Hashem Bonne Yerushalayim, j'attends une seule chose, construit Jérusalem. Il n'y a pas marqué Mashiva Ruach Umrida Gesher. Mais ça n'existe pas, tu racontes quelque chose qui n'existe pas. Un type est venu un jour, d'ailleurs de Strasbourg, en me disant, j'ai arrêté de faire pendant la Hamida Mashiva Ruach Umrida Gesher. Je lui dis pourquoi, il me dit parce qu'il pleut trop déjà à Strasbourg. Réellement, comme je vous le dis. J'ai dit, mais attends, tu crois que Mashiva Ruach Umrida Gesher c'est pour Strasbourg? T'as pas compris que c'est pour Eretz Israël? Voilà le problème. On a vu ce que ce en attendant a fait. C'est-à-dire 80% de morts en mariage mixte. Voilà le en attendant. Alors si cet en attendant il est bon, je ne veux pas être à la place de ceux qui ont maintenu et qui maintiennent encore les juifs en dehors de leur terre. C'est pas ce que le Gaon de Vilna nous dit. Et il s'est mis à pleurer justement parce que les enfants d'Israël n'allaient pas entendre qu'il fallait rentrer sur leur terre. Il y a déjà 250 ans. Qu'est-ce
Comment explique que des gens qui n'ont rien de juif, rien du tout, ça, a priori, ils sont obsédés par vouloir venir en Israël, quitter Israël, etc.
Pourquoi tu dis qu'ils n'ont rien de juif?
A priori, j'ai bien dit a priori. Quand on voit, j'ai pas des personnes quand on remonte à la situation, donc chrétiennes, ils n'ont jamais côtoyé le judaïsme. Mais cette génération-là, ils sont obnubilés par Israël.
Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui est au-delà de ce que tu vois. D'ailleurs, même les juifs qui montent en Israël, c'est pas forcément des juifs religieux, au contraire, ceux à qui on a bassiné le cerveau justement dans la religion, ils restent là-bas. Ceux qui sont restés encore sains au niveau du lien avec leur nation, ils montent. Ils ont pas une âme juive en eux, ils ont une attirance et une compréhension si c'est d'autres religions, si c'est des religions différentes, de savoir et de comprendre que le divin passe par Israël lorsqu'il se dévoile sur terre. Pas au niveau, bien sûr au niveau judaïsme, mais pas au niveau religieux tel que tu l'entends jusqu'à maintenant, mais au niveau du peuple, de la nation d'Israël sur sa terre. D'ailleurs, c'est la prophétie de Abraham. Alors, on a juste effleuré le sujet. On va commencer à comprendre un petit peu ce que le Rav nous dit ici, qui est bien entendu basé sur la Kabbalah, sur le Zohar. Tout ce que le Rav nous dit ici, c'est basé sur le Zohar. Et le Zohar à Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, nous dit explicitement que quelqu'un qui montre ne serait-ce qu'une petite joie en dehors de la terre d'Israël, en le tapait, en le frappait. Et la Gemara le dit aussi, il recevait des coups de pied. Les gens. C'est-à-dire les gens qui connaissaient le secret, lui donnaient des coups de pied. Comment est-ce que tu peux te réjouir en dehors de ta terre alors qu'il n'y a pas de jouissance, il n'y a pas de simcha, il n'y a pas de vie?
C'est aussi en...
Parce qu'il n'y avait pas encore de malchoute, donc ils s'empêchaient justement de... Exactement. Ça c'est déjà quelqu'un qui sait que son avenir est sur sa terre, mais qui pour l'instant il a, comme il a dit, avec ce qu'il a. Mais il va pas commencer à se développer, à être heureux, à se faire des iloulottes et des machins, à manger comme un...
C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, on va pas faire pour
les... Toutes les fêtes, toutes les mitzvot que tu fais en dehors de la terre d'Israël, ce sont seulement des actes pour ne pas oublier le jour où tu reviendras. C'est marqué partout. Elle a Kouki, ma Mishpati, ma chère Yassé Otam. Je vais vous le lire. Mais bien sûr, c'est dur pour vous. Mais c'est dur pour tout le monde, pas seulement pour vous. Pourquoi pour toi? Tout ce que tu as reçu dans la Torah, c'est pour ça. Tout. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Si la Torah était suffisante, on aurait dû rester où? Au Mont Sinaï. On est d'accord ou pas? Tu as reçu la Torah là-bas. Donc développe, construis une école, construis quelque chose. Donc à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit à ceux qui sont là-bas? Be'er Yarden, Be'eretz Moab, Oil Moshe, Be'eretz HaTorah Hazot. Alors, au moment où Moshe, le grand rabbin, il y a plus grand rabbin que Moshe, je ne sais pas, je ne connais pas. Hein. La grande yeshiva, elle s'appelle Har Sinaï. Donc il y a un grand rabbin, une grande yeshiva, les vêtements ils grandissent tranquillement avec les gens, ils n'ont pas besoin de travailler, donc il n'y a pas ni RMI ni Wallo, ils mangent gratos, ils sont dans le kit total, on est d'accord, ils étudient toute la journée. Donc qui mieux que nous? Donc la Torah aujourd'hui s'arrêtait à la paracha de Yitro. On reçoit la Torah, c'est fini. On est devenus des grands religieux, on est tous avec de redingotes, des machins, ce que tu veux, des kéos, des chapeaux, et ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il leur dit, Moshe? Adonai Eloheinu diber Eleinu bechore. Vous savez ce que Dieu m'a dit dans la montagne, au moment où j'ai reçu la Torah? Les morts, rab lachem shevet ba'avaze. Surtout ne restez pas dans cette montagne. Oy ba'avoy, rab lachem, j'en ai marre. Nous, sa'ou lachem, je veux que vous voyagiez. Ou Bohare et Mori, je veux que vous fassiez le chemin pour arriver, Baharava, que vous alliez au bord de mer, Bahar, dans les montagnes, Vashkela, ce que tu veux, Tel Aviv, Negev, va à Tel Aviv, à Ashkelon, Chofayam, tu veux Natania, vas-y. Eretz Haknaani, je veux que vous rentriez sur la terre. Ça veut dire quoi? C'est mieux qu'Akados Baruch Hu? C'est Dieu qui parle là. Ça veut dire l'idéal, c'est pas de faire la religion dehors de ta terre. C'est d'aller sur ta terre. Je vous ai donné cette terre. Bou urshu et haaret. Venez pour la conquérir et habiter. Asher nishba Hashem l'avotechem. Je sais ce que j'ai juré au père Abraham, Yitzhak et Yaakov, la tête lahem, ou les zaraam acharem. Pour eux, pour les générations qui viendront après. Qu'est-ce que tu veux de plus?
D'accord, c'est l'idéal logique de pratiquer. Mais
alors
après, ils
n'ont
pas pratiqué la Torah dans
la Torah. Entièrement
d'accord. La seule question, c'est est-ce que vraiment, et comment est-ce que vous comprenez, et qui la tête, que c'est inefficace de mettre en dehors des races d'Israël, et quand la
Torah,
c'est seulement l'entraînement.
Parce que le but, c'est comme ça, et le Tiflin dit, dans Kriyat Shema. Qu'est-ce que tu dis dans Kriyat Shema? Je termine avec ça. Tu vas sortir, je vais te sortir de la terre, d'accord? C'est marqué dans Kriyat Shema. Et je te demande de continuer à mettre les tefillin. Incroyable. Attends, le Sifri pose la question, c'est pas normal de continuer de mettre les tefillin? Parce que je suis sorti de la terre? Réponse du Sifri, non. Normalement, tu devrais arrêter de les mettre. Mais je te demande de continuer à les mettre pour ne pas oublier le jour où tu reviendras. Tadarabah.